France Inter.com.
La fortune vient en dormant, mais pas en dormant seul. Caroline Otero. Ans d'histoire. Quelques jours avant sa mort à Nice en 1965, plus personne ne prêtait attention à cette vieille dame de 96 ans qui se promenait une fois par semaine sur la promenade des Anglais. On avait depuis longtemps oublié jusqu'au nom de cette danseuse espagnole qui avait défrayé la chronique à la fin du 19e siècle et au début du 20e. La plus grande courtisane de son temps avait pris sa retraite 50 ans plus tôt, après avoir séduit presque toutes les têtes couronnées d'Europe. Des princes, des rois, des empereurs, mais aussi des ministres français, des écrivains célèbres et des milliardaires américains qui avaient mis leur fortune à ses pieds pour pouvoir passer une nuit avec elle. La fortune vient en dormant, disait-elle, mais pas en dormant seule. Mais en 1949, sur la Côte d'Azur, il y avait déjà longtemps qu'elle avait dilapidé sa fortune au casino et qu'elle dormait seule lorsqu'un journaliste l'avait retrouvée pour lui faire raconter sa vie.
Cette femme alerte, dynamique, qui est à nos côtés, toujours aussi jeune d'allure et de caractère, c'est la belle Otero, celle qui fut l'une des plus fameuses danseuses du début de ce siècle. On ne présente pas la belle Otero, mais au fait, je suis terriblement embarrassé. Dois-je vous dire madame, mademoiselle ou la belle Otero?
Oh, je vous en prie, appelle-moi Otero tout court. La belle Otero est bien loin.
Il est vrai que vous avez débuté si jeune dans la danse. À quel âge exactement?
Ben exactement, j'avais 4 ans.
Et vous avez pris des leçons de danse?
Jamais.
C'était inné en vous?
Oh, c'était inné en moi.
Voilà un don admirable. Mais lors de votre arrivée à Paris, vous avez dû faire sensation. Vous étiez jeune, toute jeune.
Oui, j'étais toute jeune. J'avais à peine 12 ans.
Et
j'en paraissais 18.
J'étais une gitane inconnue, elle restait bien aux pieds nus. Et tous les gens disaient dans mon dos, c'est la belle Otero.
Lisel Schiffer, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était l'extrait d'une opérette de Francis Lopez, La Belle Otero. La Belle Otero qui fait partie des 5 femmes que l'on retrouve dans votre livre. Femmes remarquables au 19e siècle. Alors on y trouve Joséphine de Beauharnais, Germaine de Staël, Charlotte Bronte, la reine Victoria et puis La Belle Otero. Qu'est-ce que ces 5 femmes font l'une à côté de l'autre dans votre livre? Qu'est-ce qu'elles ont en commun?
Oui, elles peuvent sembler n'avoir pas grand-chose en commun, bien que certaines se soient rencontrées ou entrevues, puisque par exemple Charlotte Bronte a vu la reine Victoria passer dans les rues de Londres, ou que Caroline Otero a eu comme amant le prince de Galles, le fils de Victoria. Ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'elles étaient assez représentatives du 19e siècle, qui démarre dans la suite de la Révolution, l'esprit des Lumières, avec Germaine de Staël, par exemple, et puis ça se termine avec cette fin du 19e siècle, où là, on est dans un monde très très différent, où on a l'impression que les espoirs de la Révolution française sont retombés. On est dans le capitalisme sauvage et dans la haute prostitution avec Caroline, justement.
Oui, justement, parce que c'est pas grâce à ses talents littéraires comme Charlotte Bronte ou grâce à ses qualités de chef d'État comme la reine Victoria qu'elle a fait fortune ou qu'elle s'est rendue célèbre ou qu'elle s'est faite remarquer, pour reprendre le titre de votre livre, Zilles Schiffer, mais c'est en vendant ses charmes, c'est ce qu'on appelait pudiquement une courtisane, une cocotte. Et il y en avait pas mal, d'ailleurs. Il y avait de la concurrence à l'époque de la Belle Otero.
Il y avait une rude concurrence et une de ses, je peux dire, collègues et néanmoins amies, Emilienne d'Alençon, qui d'ailleurs a aussi lancé Coco Chanel différemment dans le monde. Emilienne d'Alençon avait dit à Otero, quand tu couches avec un bourgeois, tu es une putain. Quand tu couches avec un prince, tu es une favorite. Mmh. Et Otero a très vite compris que la deuxième solution était beaucoup plus avantageuse.
Alors il y avait aussi Liane de Pougy, Cléo de Méron, Bonne, etc. Cela dit, la célébrité de Caroline Otero, puisque c'était son nom, en tout cas le nom qu'elle avait pris, peut-être qu'elle elle est due, c'est une espèce de revanche, à vous lire, c'est ce qu'on ressent, sur une enfance qui a été tragique. Elle s'appelait Augustina Otero Iglesias. Elle est née en 1868 en Galice et non pas en Andalousie, comme elle a voulu le faire croire, d'un père inconnu aussi et non d'un officier. Et c'est assez pathétique, violée à 12 ans par un cordonnier.
Oui, comme vous le dites, d'ailleurs, Caroline a tout de suite eu le sens de la publicité et elle a très vite su raconter une très très belle légende autour de la belle Otero qui occultait cette enfance misérable dans un petit village de Galice où son grand-père était potier, où sa mère s'est retrouvée effectivement mère célibataire avec de nombreux enfants et très vite obligée de vivre de ses charmes, mais de façon beaucoup moins réussie que ne le fera sa fille par la suite. Et la petite Caroline a une vie, on l'appelle Mexona, je crois, la pisseuse, la petite gamine qui se balade dans le village et qui commence d'ailleurs à voir, voyant les gitans passer dans le village, qui commence à danser, à se dire qu'elle pourrait peut-être danser elle-même, mais bon, elle n'en est pas là. Et elle est violée un jour sur la route par un cordonnier qui lui avait donné des chaussures et qui a considéré qu'il méritait cette récompense pour le prix de ses chaussures. Et je crois que cette histoire de viol, comme dans beaucoup d'histoires de prostituées, de haut vol ou de petites prostituées, a aussi donner à Otero une espèce de haine de l'homme dont elle parle, de haine du désir de l'homme. Elle écrit dans ses mémoires, elle en parle très bien en disant tous ces visages désirants d'hommes que j'ai tenus comme ça et que j'ai rejetés avec plaisir. Enfin, elle a eu sa revanche, je crois, sur ce viol des origines et qui a été pour elle évidemment épouvantable.
Et puis surtout, elle comprend le parti qu'elle peut tirer d'une beauté dont elle n'a pas honte, au contraire, qu'elle exhibe un petit peu partout. Mais alors, à condition de changer de nom et puis de quitter aussi l'Espagne pour danser et chanter à Paris, où elle allait connaître ses premiers succès en 1888.
Ils ont bouffé du lion ce soir. Si votre belle, enfin je ne sais plus quoi, ne casse rien, c'est eux qui vont tout casser. Si au moins vous m'aviez laissé mettre sur les affiches la belle
Otero.
Otero, oui, la belle Otero de la Scala de Milan ou de la Lambra de Grenade, ça les aurait peut-être impressionnés, mais la belle Otero tout court.
Tout court. Oui, mon vieux. Et ça fera le tour du monde.
Et maintenant, cher public, vous allez pouvoir applaudir la grande révélation de la saison, la belle Otero.
Savez-vous qu'on ne parle plus de vous, belle Otero?
Mais Caroline, c'est formidable. Vous êtes le seul sujet de conversation à la mode entre l'opéra et le bois.
J'ai fait connaître un soir à Paris tous les refrains de l'Andalousie. Les hommes s'enflammèrent aussitôt pour la belle Otero.
Alors bon, c'était pas évidemment celle de la belle Otero, de Caroline Otero. Comment expliquer le succès qu'elle a, mais qui est foudroyant lorsqu'elle arrive à Paris, donc en 1888, en France, tout de suite, c'est le succès. Est-ce que c'est parce qu'elle était belle, hein, d'où son nom? D'ailleurs, c'est pas elle qui s'est appelée la belle Otero.
C'est pas elle qui s'est appelée la belle Otero. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que beaucoup de ces cocottes se composaient des noms, se trouvaient des noms à particules comme Valtès de la Bigne ou Émilienne d'Alençon. Elle garde quand même son nom, mais elle change son prénom parce que Agustina, c'était un petit peu trop exotique. Donc elle choisit Caroline, mais elle garde Otero. Et elle a surtout un sens de la publicité qu'elle va très très vite développer. Elle a quitté son petit village, elle a été prostituée, elle est tombée amoureuse de deux pacos différents qui l'ont prostituée tour à tour. Elle va aussi assister à l'exposition universelle de Barcelone et je pense que ça lui donne l'envie d'entrer dans ce monde brillant et de richesse Et donc là, elle rencontre entre autres un certain monsieur Stévez, qu'elle décrit comme un admirateur et qui en fait c'est son premier amant, qui l'emmène à Paris et qui sent très très bien, c'est un fils de famille, un fils de banquier espagnol, qui sent très très bien qu'il y a un talent caché. Là, il la présente à José Oller qui avait différents théâtres à Paris. Et tout de suite, elle est lancée, je dirais presque comme Madonna aujourd'hui, elle est lancée comme une star au sens américain du terme. D'ailleurs, on va voir qu'après, elle part aux États-Unis puisqu'il José Oller organise une conférence de presse carrément au Grand Véfour, au Palais Royal, le lieu déjà de prostitution à l'époque de la Révolution française. Et là, elle est amenée aux journalistes. On lance la belle Otero en disant que ça va être la grande danseuse espagnole andalouse, alors qu'elle est de Galice.
Oui, elle s'invente un passé moins glauque que celui qui a été le sien, les Elchiver, notamment même un mari, un marquis italien ou espagnol.
Un marquis italien. Oui, elle dit aussi que sa mère était une gypsy qui a été kidnappée par un officier. Donc, oui, elle se recompose une histoire. Ça, c'est elle qui crée la légende d'Otero, et les journalistes sont absolument subjugués. Elle retire son manteau de fourrure. C'est un vrai show, hein. Elle retire son manteau de fourrure, elle commence à danser pour eux, elle se lance dans ces danses de castagnette et de guitare qu'elle a appris toute seule, et elle séduit immédiatement Paris, avant même d'être lancée sur scène.
Oui, et puis les Parisiens, et puis pas n'importe qui, hein, le beau monde à Paris, tout le monde s'arrache des faveurs, ou plutôt achète des faveurs de la belle Otero, dont un comte, dont un Américain, le comte Kessler que vous citez, et puis son assistant Ernest André Jürgen, qui entraîne la belle Otero en Amérique, à New York, en 1890, où sa réputation devient internationale.
Je suis partie à New York.
À New York, oui.
Pour éviter un tas de péripéties de la part de mon mari, qui était un marquis italien, qui était très jaloux, bien entendu.
Oui, en somme, ce fut un départ assez brusqué.
Oui.
Et en Amérique, ce fut immédiatement la gloire,
très gros succès.
Le soir même de votre arrivée, d'ailleurs.
Oui, le soir même de mon arrivée.
Mais le public devait être littéralement déchaîné devant tant de grâce, de souplesse et aussi tant de beauté.
Oh oui, ils étaient fous.
Mais les Américains sifflent pour applaudir. Ils sifflent quand ils sont contents.
Comme les Allemands.
Oui, exactement.
Mais alors, c'est un succès.
Mais oui, je l'ai pas.
Et c'était un extrait du film La belle Otero de Richard Petier, avec cette scène que vous décrivez aussi dans votre livre, Lisel Schiffer.
Oui, parce qu'elle en parle dans ses mémoires. Il semble que ce soit vrai. Elle était très choquée d'avoir été sifflée le premier soir lors de sa première représentation à New York, parce qu'elle pensait que c'était des huées. Elle aura même giflé ce pauvre André Jürgens, qui d'ailleurs fut une de ses premières victimes, puisqu'il s'est suicidé ensuite pour elle au gaz, parce qu'elle l'avait totalement ruiné. C'est lui qui avait préparé et fait tout un battage médiatique sur l'arrivée d'Otero, qui, rappelons-le, n'avait jamais été vu par les Américains. Et donc, il arrive à lui créer une sorte de fan club avant même qu'on ne l'ait vu. Et donc, il y a déjà des gens qui sont sur le port à l'attendre dès l'aube. Il y a des hommes qui arrivent en bateau avec chacun une rose rouge et un œillet à la boutonnière, rouge et jaune, aux couleurs du drapeau espagnol. Et donc, il a déjà fait tapisser sa chambre à l'hôtel Bartholdi, qui était l'hôtel connu à l'époque. Il lui crée vraiment déjà cette légende de star et ça marche tout à fait.
Et ça va marcher d'ailleurs 8 mois. New York, ça a été un triomphe. Donc elle va
le contrat a été 3 mois et elle reste 8 mois.
Elle va parcourir les États-Unis, puis elle va rencontrer, alors là, ses premiers vrais milliardaires, les milliardaires américains, le fils du roi du rail, Vanderbilt, qui lui offre un collier de perles qui aurait appartenu, ou qui a appartenu, je crois, à l'impératrice Eugénie, l'impératrice française Eugénie de Montijo, d'origine espagnole d'ailleurs.
Absolument, donc c'est par un nouveau riche américain qu'elle refait le lien avec l'histoire européenne. Effectivement, d'ailleurs, Otero sera toujours assez fascinée, puisqu'elle aura pour amant après quasiment tous les souverains de la planète, mais elle est toujours fascinée par ça. Alors les bijoux, justement, elle est aussi fascinée par les bijoux. Il y a un autre épisode où un de ses amants lui a aussi fait servir dans un grand restaurant un plat d'huîtres. Il insiste pour qu'elle prenne des huîtres alors qu'elle aurait préféré du caviar ou autre chose. Et dans chaque huître, elle découvre une superbe perle pour se faire un collier. Donc, elle a plein d'histoires comme ça autour des bijoux. Tiffany, par exemple, le grand joaillier Américain lance un bracelet de pied parce qu'elle porte un bracelet de pied sur scène. Et elle est fascinée par ses bijoux, un peu comme dans, je ne sais plus, le film de Satyr Jitrey où on raconte cette histoire d'indienne qui vit sa vie sensuelle uniquement à travers ses joyaux. Otero, c'est un peu son armure, c'est son armure de détaillir qu'elle porte avec ses bijoux.
Et quelle armure, hein, vous les citez, 8 bracelets de rubis, émeraudes et diamants, un diadème de brillants, 2 solitaires de 50 carats, et encore ça c'était, il y en avait beaucoup d'autres.
La femme bijoux,
on la surnommait.
Elle prend toujours soin d'ailleurs de bien dire aux journalistes qu'elle se déplace tout le temps avec ses bijoux qui sont toujours sur elle. Au début d'ailleurs aussi, elle ne voulait pas mettre son argent à la banque, on voit ses origines paysannes, et elle veut garder son argent sur elle, et quand même aux États-Unis le banquier lui dit, mais non, vous viendrez chercher de l'argent au fur et à mesure quand vous en aurez besoin. Elle a ce côté femme du peuple qui a besoin d'amasser et de voir son or et de le voir concrétisé sous forme de bijoux.
Et des bijoux qu'elle récolte dans le monde entier. Parce que ce qui vraiment la distingue, ce qui est très étonnant pour l'époque, c'était il y a 100 ans et même un peu plus, c'est qu'elle a parcouru le monde entier. Elle était célèbre partout.
Tout à fait. Un peu comme Sarah Bernhardt peu de temps après, mais elle a été célèbre partout. Et d'une certaine manière aussi, elle m'a fait penser à la comédienne Rachel sur laquelle j'avais travaillé. Ce sont des femmes souvent étrangères, donc Caroline étant espagnole, mais qui sont porteuses du chic parisien et de l'esprit de Paris. Donc c'est l'Andalouse de Paris. Otero, d'ailleurs, quand elle arrive à New York, son impresario la met en concurrence avec Carmen Chita, une autre espagnole, mais qui est beaucoup moins... Qui ne raconte pas qu'elle est de noble extraction et qui finalement n'a pas de succès, et Otero gagne et triomphe comme toujours.
Alors à New York, à Londres, en Amérique du Sud, à Tokyo,
en Russie aussi, elle adore les Russes.
Oui, et puis à partout, elle est accueillie par les plus hautes autorités du pays.
Mademoiselle, je vous présente mes hommages. Permettez maintenant que je me présente.
C'est inutile. Je reconnais parfaitement votre Altesse impériale.
Appelez-moi Pierre.
Je suis désolée, Pierre.
Vous avez vu la salle ce soir?
Oui. C'est plein comme d'habitude.
Ah, mieux d'habitude, mon cher, pas plus. Mais mieux. Je n'avais encore jamais vu ça. 2 princes, 3 ou 4 ducs, 3 maharajas. Une flopée de banquiers, 4 lords. Et un roi.
Un roi?
Parfaitement, le roi du Cornville. Ah,
monsieur Chastain, en voilà une surprise. Vous détirez une table?
C'est vous, Chastain. Bonjour.
C'est bien vous qui signez Caton l'Ancien dans le Gil Blas, n'est-ce pas?
C'est exact. Pourquoi?
Vous êtes donc bien l'auteur de l'article paru ce matin sur Caroline Otero et intitulé « La poule aux yeux d'or continue à mettre les lits en portefeuille ».
Je suis effectivement l'auteur de cet article.
C'est la femme au bijou, celle qui rend fou, c'est une enjôleuse. Tous ceux qui l'ont aimée ont souffert, ont pleuré.
Georgette Plana, une chanson créée en 1912, La femme aux bijoux, celle qui rend fou, alors c'était Caroline Otero bien sûr, qu'on surnommait aussi la sirène des suicides. C'était vraiment une femme fatale, vous avez évoqué déjà un suicide, il y en a eu plusieurs pour elle.
Il y en a eu plusieurs, et c'est le côté maléfique et ambigu de la femme fatale qui se moque de l'amour de l'homme, et qui même, ça on le voit donc dans son journal comme je l'ai déjà dit, qui même se réjouit en fait de ce côté destructeur. Effectivement, alors ça correspond aussi à cette période assez étonnante, je trouve, de la fin du 19e siècle, où un peu dans l'héritage des confessions d'un enfant du siècle de Musset, il y a toute une partie de la haute société, enfin des hommes de la haute société, qui ont l'air de vouloir avoir ces femmes trophées à leurs bras et qui sont prêtes à tout, à sacrifier leur fortune et parfois leur vie pour elles. Alors Otero, elle a aussi bien Païen, un jeune explorateur qui va se suicider devant le pavillon chinois au bois, là juste où il l'avait rencontré, que le comte de Chendelet qui se tire aussi une balle dans la tête parce qu'elle l'avait complètement ruiné. Elle est très dure quand ses amants n'ont plus d'argent. Elle leur fait comprendre qu'il ne les intéresse plus du tout. Il y a un vieux comte allemand comme ça qui lui annonce qu'il faut peut-être qu'elle se calme un petit peu du point de vue des dépenses parce qu'elle a déjà croqué toute sa fortune. Elle lui dit « Vous reprenez votre train pour Berlin ce soir ?» Alors, lui signifiant son congé de façon très, très, très sèche et très... très, très méchante, en fait.
Ruine-moi, mais ne me quitte pas, disait le grand-duc Pierre en Russie.
Elle a fait les deux, bien sûr.
Hein, elle a fait les deux. Le grand-duc Pierre, qui était l'oncle, je crois, du futur tsar de Russie, Nicolas II. Alors, quand on lit la liste, quand même, des amants de la belle Otero, que l'on retrouve dans votre livre, Lise Schiffer, c'est absolument hallucinant.
Incomplète, sans doute, la mienne.
Mais, incomplète.
Oui, je pense. Bon, elle a un petit carnet noir, justement, dans lequel non seulement elle a la liste de ses amants, mais aussi leurs talents amoureux, si je puis dire. Donc, c'est assez rigolo. Par exemple, elle raconte que Léopold II, donc le roi des Belges, est d'un dynamisme épuisant et qu'après qu'il passe une soirée avec elle, il lui faut deux jours pour se reposer.
Il a fait Popold, je crois.
Oui, Popold. Oui, d'ailleurs, il avait aussi Cléo de Mérode, Léopold, d'ailleurs. Oui, c'est ça.
Et Cléopold,
exactement. Il y a eu aussi l'empereur du Japon, Mutsuhito. Alors là, elle dit qu'il est absolument délicieux parce qu'il se contente de la caresser pendant des heures et il s'endort. Donc elle trouve que c'est plutôt reposant comme client. Elle est très dure aussi avec Albert de Monaco, donc pas l'actuel, mais l'ancêtre de l'actuel. Elle dit que quand elle passe une nuit avec lui, elle ne se rend pas bien compte de ce qu'il lui fait, mais que, bon, en tout cas, il est très généreux. Alors, il n'y a pas que des princes, il y a aussi, justement, des aristocrates ou de grands bourgeois. Il y a
parce que ce n'est pas fini, en ce qui concerne les princes. Écoutez, vous citez le prince de Galles, c'est-à-dire le futur roi d'Angleterre,
Édouard VII. Oui.
Vous avez Guillaume II, l'empereur d'Allemagne.
Qui lui écrit même une pièce de théâtre, oui, absolument.
Le chat d'Iran.
Le Khédive d'Égypte qui veut l'épouser.
Oui, enfin bon, c'est vraiment tout le Gotha qui s'y trouve. Et puis alors donc, effectivement, aussi des bourgeois.
Aussi des bourgeois, notamment Max Lobody, qu'on appelait le petit sucrier, pour lequel Cocteau raconte qu'il faisait nettoyer ses calèches au champagne, et qu'il était fou de corrida, donc il s'était créé des arènes dans un maison Lafitte alors que c'était interdit. Et alors elle est très contente de Max en disant « Il m'a donné 100 000 francs dès la première soirée, donc c'est bien ». D'ailleurs, il y avait une chanson de Polaire qui disait « Max, que t'es rigolo, c'est pas que tu sois joli garçon, seulement t'as tant de pognon ». C'est tout à fait dans l'esprit de l'époque.
Mais il y en a un auquel elle disait pratiquement ça, d'ailleurs, c'était alors un ministre très important, très célèbre en France, qui est resté longtemps son amant, qui était Aristide Briand, qui a été Premier ministre, etc. Qui était...
Alors, c'est le seul qu'elle a l'air d'estimer, pour lequel on puisse dire que leur liaison se soit transformée en amitié. Elle fêtait son anniversaire avec lui, et elle le laisse entendre dans son journal qu'elle était presque amoureuse de lui, ce qui, pour Caroline, était
enfin, elle lui dit quand même, c'est ce que vous répétez, c'est dire heureusement que tu es laid, parce qu'autrement je me serais attachée.
Oui, mais je pense que là, c'est une manière gentille de lui dire qu'elle est quand même attachée à lui, surtout pour Caroline.
Alors, tous se sont ruinés pour elle, plus ou moins dans la mesure de leurs moyens, mais alors c'est un argent qui passait très vite entre ses mains, parce qu'elle avait un défaut qui va la ruiner, c'est le casino. Très tôt, dès son arrivée à Paris, elle se met, en tout cas à Monte-Carlo, elle se met à jouer, et là, elle dépensait également des fortunes, Lise Schiffer.
Oui, elle raconte tout de suite la fascination du lieu où elle sent une excitation extraordinaire. Elle est seule, là aussi, au casino, elle n'est pas dans ce contexte sollicité par les hommes. Et alors là, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle a quand même tout à fait conscience qu'elle n'est qu'une prostituée. Et j'ai l'impression que tout cet argent qu'elle gagne, elle le dilapide et elle veut elle fait dilapider leur fortune à ses amants, mais elle veut elle-même dilapider cet argent qui représente en fait sa déchéance sociale et le fait qu'elle ne montera jamais plus haut dans la société. Donc elle ne s'est rien gardée, comme beaucoup d'ailleurs de ses contemporaines. Et donc effectivement, bien qu'elle ait eu des sommes astronomiques, l'empereur du Japon lui offre une île au Japon aussi. Elle dit mais qu'est-ce que je pourrais bien en faire d'une île. Elle ne va rien garder, elle va mourir dans la misère. C'est assez étonnant quand on voit la fortune qu'elle a pu avoir.
Et puis surtout, elle arrête de travailler, si je puis dire, entre guillemets, en nous sommes en 1915, on est pendant la guerre, et elle arrête de travailler alors qu'elle a 47 ans. Après tout, elle aurait pu continuer à vivre de ses charmes. Je crois qu'elle dit « je voulais partir en beauté ».
Oui, elle dit qu'elle voulait partir en beauté. Alors ça, c'est peut-être une façon élégante de là aussi de réécrire sa sortie, parce que en fait, Colette, qu'il avait rencontrée quand Colette elle-même montait sur scène et qu'il raconte dans son livre Mes apprentissages, dit que c'était encore une très belle femme, mais elle commençait quand même à grossir. En plus, elle avait voulu changer de répertoire et essayer de jouer des pièces plus classiques. Elle a même eu un rôle de dominicaine, mais ça n'a pas plu du tout à son public qui voulait toujours la voir danser avec ses castagnettes.
Elle voulait jouer Carmen.
Elle voulait jouer Carmen, qu'elle a joué donc justement, et puis la guerre de 14 arrive. Alors, il faut se rappeler que Caroline est espagnole, qu'elle n'est pas française, que tous ses amants, comme on vient le voir, sont tous les chefs d'État qui sont tous en guerre, donc dans le cadre
les
uns contre les autres. Donc, on peut supposer qu'elle est un peu perturbée par tout ça. Et elle se retire justement à l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, où elle est reçue en tant que cliente, où elle est reçue et hébergée gratuitement.
Et puis alors, on finira par parler de moins en moins d'elle, et même à l'oublier, jusqu'à ce qu'un très célèbre journaliste de la radio de l'époque la retrouve 33 ans plus tard à Nice. En 1948, elle avait 80 ans.
Ici, Samy Simon qui vous parle de Nice. Nice qui s'apprête dans quelques heures à faire son entrée dans l'année nouvelle avec la voix d'une femme qui voici bien longtemps fit la conquête du monde avec ses jambes et son regard, un regard resté d'ailleurs étonnamment jeune malgré les années. C'est la belle Otero. La belle Otero qui vit retirée sur la côte au milieu des trésors de ses souvenirs et qui, lorsque je lui demande de dire quelques mots au micro, répond en adressant ses vœux à ses vieux camarades.
Ben écoutez, je ne demande qu'une chose, c'est que tout le monde soit heureux. Et surtout, ces pauvres camarades qui sont dans la gêne, et bien malheureux et qui doivent avoir bien froid. Et je pense que moi qui suis ici, où tout de même il y a du soleil, il y a des fleurs, et enfin, je suis tout de même très heureuse.
Eh bien, bonne année à vous aussi, Madame Otero, et que le ciel de Nice continue longtemps encore à vous être clément.
Et le ciel sera encore clément pendant 17 ans, puisqu'elle est morte en 1965 à 96 ans. Mais alors, vraiment, dans la pauvreté, c'est assez triste, parce qu'au fond, l'essentiel de sa vie, elle l'a vécu dans la pauvreté. Après avoir vécu 20 ans ou 30 ans, avoir eu 30 ans de gloire, elle est restée encore plus de 50 ans dans la misère, presque.
Oui, dans la misère, bah, oui, c'est la suite de cette déchéance. Donc elle s'installe effectivement sur la Côte d'Azur, qui pour elle, je pense, d'abord pour jouer, qui est le souvenir de ses folles amours. Et puis où il y a plein de témoignages, puis parce que par exemple l'hôtel du Carlton qui a été construit en 1911, les deux coupoles de l'hôtel du Carlton à Cannes auraient été copiées des seins d'Otero.
Ah bon,
donc on peut penser.
Donc on peut les voir encore.
On peut les voir encore. Donc c'était un hommage pour
sur
elle.
La croix, bien, oui.
Et donc, en fait, là aussi, même, on peut retracer une géographie de la décadence d'Otero, puisque à Nice, elle commence par s'acheter une très belle villa dans le quartier, dans les hauteurs de Signes, et puis après, une petite maison, et puis finalement, elle terminera dans un petit hôtel près de la gare, en ayant des difficultés à payer sa logeuse. Mais elle aime Nice aussi parce que c'est là où il y a tous les Russes qui sont venus après 1917, donc elle retrouve l'ambiance peut-être de ces fastes d'antan, mais elle n'est pas aussi sympathique qu'elle semble l'être, en tout cas dans cette interview, parce que ça devient un peu une vieille dame aigrie qui par exemple critique Joséphine Baker en disant qu'est-ce que c'est que cette négresse au sein nu qui se présente sur scène, et qui aussi écrit même au préfet pour se plaindre des maillots de bain des baigneuses des années folles sur la plage de Nice qui la choque beaucoup, elle qui était quasi nue sur la scène. C'est un peu l'arroseur arrosé.
Oui. Alors, évidemment, elle a besoin d'argent. D'abord, elle vend ses mémoires en 1926. Enfin, elle les écrit ou elle les fait écrire.
Pour la vie comédia,
d'abord. Et puis, elle vend sa maison, sa première maison à Nice. Elle est aidée par une association de vieux artistes. C'est sans doute à eux qu'elle rend hommage. Et puis aussi, elle va être aidée par un film, hein, Richard Petier, qui en 1954 fait un film sur elle, à propos d'elle, avec Maria Félix dans le rôle de la belle Otero, justement. Un film qu'elle a vu, qui a été fait de son vivant.
Et qui ne lui a pas plu parce qu'elle trouve que Maria Félix n'est pas à la hauteur et est beaucoup moins jolie qu'elle ne l'était elle-même. Il y a aussi un spectacle qui s'appelle La Belle Otarie, qu'elle n'apprécie pas du tout, qui passe à Paris. Donc elle a peu de sens de l'humour sur elle-même et de toute façon elle se considère comme une telle icône que personne n'est capable de l'incarner, alors que pourtant... Maria Félix est quand même assez extraordinaire. Oui, elle vit comme ça, dans cette, elle vit totalement oubliée. Je crois que Pierre Lazareff vient faire une petite interview d'elle aussi à un moment. Mais c'est vraiment, la plupart de sa vie a été vécue dans l'ombre.
Alors, Qu'est-ce que vous avez voulu décrire, Lisa Schiffer? C'est une femme libre, à la fin d'un siècle où elle ne l'était pas beaucoup, au 19e.
Bah, c'est une femme pauvre qui a essayé de trouver la liberté de la seule manière qu'avaient les femmes pauvres à l'époque. Mais on a quand même l'impression que c'est un terrible échec, puisqu'elle meurt seule. Elle n'a vraiment pas d'amoureux, pas d'enfants, pas d'amis. Et c'est quand même le désespoir de la femme pauvre du 19e siècle.
En tout cas, une femme que l'on retrouve dans votre livre, Femme remarquable au 19e siècle, publié aux éditions Vibert. Vous avez pu entendre des extraits du film La Belle Otero de Richard Potier, avec Maria Félix, donc dans le rôle le titre, édité par René Château Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Arnstam et Antoine Viossa, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la Corée du Nord à l'occasion de son 60e anniversaire.